bienvenue à la French Connection, épisode un peu spécial. Cette fois-ci, nous allons parler un peu de toute la création du podcast comme il est maintenant. Qu'est-ce que nous avons fait, nous avons exploré, parce qu'il y a beaucoup d'explorations qui s'entourent de la création d'un podcast, autant au niveau des plateformes que des outils et ainsi de suite, et de nos expériences et nos moins bonnes expériences. Donc, je suis avec Patrick.
Salut tout le monde, c'est Nick.
Salut! Donc, on clie d'un peu comme ça, puisque on se fait souvent poser des questions, souvent plus parce qu'on a des petits problèmes techniques, mais dans l'ensemble ou encore sur le logo, ces choses comme ça, fait qu'on va comme relater un peu l'historique du présent podcast, son ancêtre, parce qu'il y a eu un ancêtre, pour les gens qui ne sont peut-être pas tout à fait au courant. Donc, Patrick, je te lance la balle.
Yes, en fait, on remonte à loin derrière, idée de 2012, pendant le temps qu'on faisait les premiers IAC, en fait, qu'on appelait dans ce temps-là les IAC Nights, parce qu'on était un peu débiles et on en faisait plusieurs par année, je sais pas si tu t'en souviens.
C'était complètement débile le plan.
Ouais. C'était cool sur papier, mais c'était pas réalisable. Dans gros, on avait une équipe qui faisait 4 CTF par année, donc c'était un petit peu abusif. Donc c'est ça, on a commencé à faire un podcast en milieu d'année, début d'année, 2012. Puis vous pouvez les voir sur le site du Hackfest, si vous allez dans les archives, dans le menu à droite, il y a Archives Podcast, puis ils sont pas mal toutes là, je pense qu'il en manque peut-être un ou deux qui sont morts durant les transferts de sites web et autres déboires qui arrivent. Puis à partir de ce moment-là, on a quand même eu beaucoup de trafic. Je te dirais pas autant qu'on en a aujourd'hui parce que c'était moins connu, c'était moins populaire, etc. Là. Les réseaux sociaux étaient moins intenses aussi. Mais vous pouvez même retourner voir quelques-uns de ceux-là que j'ai vraiment aimé, comme l'interview avec Ahmed du Collège Dawson. L'étudiant qui avait piraté son collège de manière éthique et après avoir fait le piratage de manière éthique et que l'école ne l'avait pas écouté, bien, il a décidé de les péter au complet. Donc, il s'est ramassé dans le trouble. Mais on a fait l'interview avec, puis il débat son point et tout. Puis c'est quand même intéressant. Il y avait eu un jeu aussi, des interviews avec un gars qui a fait un jeu en Australie sur comment pirater des jeux dans son propre jeu. Un petit peu Inception et plein d'autres sujets intéressants. Donc, c'est à partir de là. On roulait ça peut-être une fois ou deux par mois. C'était un petit peu plus relax qu'aujourd'hui. Puis rendu en 2014, je me souviens plus ce qui s'est passé, mais on a décidé de faire d'autres choses. Ça a arrêté.
C'est juste une question de temps qui a fait ouais. Ça s'est éteint de sa belle mort à ce moment-là pour de multiples raisons. Puis principalement manque de temps là, à l'époque.
Exact. Fait qu'on a eu à peu près 2 ans et quelques sans podcast et vers octobre 2016, on a relancé l'idée, moi et Nick, de rouler le podcast, de refaire ça, de changer le brand et tout ça à cause d'une joke quelconque. Donc, 4 ans de podcast, mon Nick, à cause d'une joke. Félicitations.
C'est quand même terrible. Juste pour ça, puis on sait la cadence, on sait les choses. Ouais. Cette fois-ci, peut-être plus que la première fois. Mais on est...
Ouais, on est plus rigoureux et sérieux. Mais en même temps, c'est vraiment parti d'une blague. Et la blague se retrouve dans notre logo où il y a une phrase encodée que personne en 4 ans a réussi à décoder. Et évidemment, on ne vous le dira pas aujourd'hui. C'est quoi? Mais si vous réussissez, la joke se trouve en arrière. Et simplement pour vous dire que la joke, vous la trouverez sûrement pas drôle parce qu'il n'y a pas le contexte associé. Mais c'est ça. Donc, n'hésitez pas à craquer, décoder le tout. Il y a des prix associés à ça. On l'a dit quelques fois dans les anciens podcasts. Mais c'est ça, ça date de loin. Donc, en gros, octobre 2016, on a fait le pilote. Après ça, novembre 2016, on l'a fait live un premier. Tout de suite après le pilote, on est un peu intense. Je pense qu'on a fait quoi, 2 heures et quelques avec de la bière et de la poutine sur stage.
Au Hackfest, c'est toujours des podcasts intenses.
Mm-hmm. Puis faut le dire. Attends, je ne sais pas si la date est sur le site web, mais on fait ça live pour vrai. Ah non, c'est pas écrit. Mais le podcast 00 du spécial Live Hackfest, je pense qu'il a été réalisé quoi, 1 an et quelques après Nick?
Dans le genre, mais les épisodes du podcast, à l'exception de celui de 2019, ouais. ont toujours été diffusés au moins un an après.
Ouais.
Parce que des lives, c'est tough. Puis de, là, tu sais, ça fait partie aussi de toutes les choses en arrière-scène que la plupart des gens ne voient pas. C'est que quand j'ai commencé à faire ça, j'étais pas super bon dans ces affaires-là. Et faire des lives, ben j'étais pas super bon non plus. Fait que ça prend plus de temps, plus de choses. Fait que ça me prenait énormément de temps. Maintenant, je suis un peu plus habile. Fait que ce qui fait qu'en 2019, je les ai sortis dans un délai raisonnable, mais autrement.
Ben, faut dire qu'on n'était pas structuré non plus. Fait que c'était vraiment une discussion avec la foule, très random, très tout croche, avec beaucoup de niaiseries qui se disent pas officiellement, publiquement. Ouais,
c'est aussi c'est un énorme problème des lives. Là,
on mais, t'a pas aidé, mettons.
dans ceux-là, tout dépendant. Là, c'est pas si pire. De toute façon, certains, comme celui de 2017, il est sorti relativement vite aussi parce que il est sorti quasiment pas modifié parce que le contenu a passé le test du temps. Fait que c'est peut-être au moment où on le disait, on trouvait drôle puis on trouvait ça que c'était un peu controversé, mais finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a prédit des choses qu'on ne pouvait pas prédire.
Ouais. Les choses du genre qui arrivent. Donc, c'est ça. Après le podcast live du Hackfest, on a continué à faire ça pas mal en cadence, deux fois par mois, pour augmenter la cadence à presque une fois par semaine ou deux semaines, avec des épisodes, plusieurs types d'épisodes. En fait, là, au début, ce qui était intéressant et qu'on va essayer de sûrement ramener à un moment donné, mais on avait... le type d'épisode technique. Donc, on avait des segments techniques, si on peut dire, pour parler de comment le plus écouté, en fait, là, c'est lui de l'Active Directory, donc la sécurité de l'Active Directory. Vous pouvez retourner le voir. Là, je pense que c'est le podcast qui a le plus de vues par x2 ou x3 de tous les autres, ce qui est assez intéressant puisqu'il date de début 2017, je crois. Donc, il y a plusieurs émissions techniques qui, malheureusement, n'ont pas eu lieu récemment parce que notre crowd de participants sur le podcast varie un petit peu. Donc, ça arrive des choses comme ça. On a les épisodes spéciaux qui sont généralement des lives ou des interviews ou des trucs qu'on fait par rapport aux nouvelles, mais qui ne sont pas dans les cadences régulières. On a évidemment les hebdomadaires, les réguliers. Et récemment, dans les deux dernières semaines, on a commencé à, on a commencé à faire des lives sur notre plateforme, la dernière plateforme qu'on utilise via le YouTube. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Puis parlant de plateforme, Nick, fais-nous donc une petite historique de notre déboire technologique.
On a exploré beaucoup de choses, puis c'est là où on constate la difficulté d'enregistrer, surtout à distance des podcasts, puis c'est un des éléments importants parce que c'est pas tous les podcasts ou les autres podcasts qui enregistrent à distance, c'est soit ils enregistrent en studio, ce qui facilite un peu les choses. Nous, on fait rarement ça parce qu'on aime ça compliqué. Donc, on avait utilisé, dans les premières plateformes qu'on a utilisées en intermittent, Zencastr qui a été, les résultats sont mitigés je vais répondre spécifiquement à des commentaires qu'on reçoit. Des fois, les gens ont l'impression qu'il y a comme des lenteurs ou des délais dans les réactions entre les personnes, ce qui coupe un peu le rythme. C'est le défaut de la plateforme de Zencastr parce qu'ils ont ce qu'ils appellent de l'audio drift. C'est-à-dire que chaque piste audio que j'ai des personnes n'est pas à la même vitesse. Fait que ça chie. C'est juste le montage. C'est beaucoup poche. Ça me prend énormément de temps pour compenser ça. Autant on a l'avantage d'avoir des pistes distinctes, autant c'est pas super génial. Fait qu'on l'a abandonné, cette plateforme-là, pendant un temps. On est allé vers Zoom. Puis Zoom, ça nous avait amené tout le volet vidéo aussi, ce qui a énormément rajouté de la vie en termes d'interaction, mais Zoom a amené son propre défi technique, c'est-à-dire que les pistes audio, qui, dans le cas de Zoom, c'est le fun, aussi les pistes audio sont toutes séparées. Par contre, ils compressent les blancs. Fait que quand il y a des silences, ils compressent, mais ils compressent pas genre, je compresse le fichier, ils compressaient le temps. Fait que si une personne ne parlait pas pendant une demi-heure, ben cette demi-heure-là disparaissait du fichier. Fait que faut que je recoupe les fichiers pour trouver où placer chacun des morceaux. Fait que ça aussi, ça a été un peu l'asile à réaliser, ouais. Là, à faire ce genre de choses-là. Et finalement, parce que Zoom a connu un moment un peu épique en sécurité l'an dernier, en 2019. On nous avons abandonné la plateforme parce que, pour des raisons de sécurité, on fait ce qu'on prêche, n'est-ce pas? Donc, on a abandonné la plateforme parce qu'on trouvait qu'à l'époque, ils niaisaient avec la sécurité, ils trouvaient pas ça très au sérieux. Puis le temps nous a effectivement donné raison parce que la débâcle actuelle de Zoom, elle est monstrueuse. Puis je suis très, très, très content que cette situation-là qu'on ait changé parce qu'à l'heure actuelle, il y a du Zoom bombing. On aurait pu se faire déranger en plein milieu de nos événements, de nos enregistrements, tout ça. Fait que c'est déjà une bonne chose. On a rebasculé un court moment sur Zencastr parce que c'était ultimement la meilleure plateforme disponible à ce moment-là. On avait essayé d'autres affaires, mais c'est jamais très intéressant. Puis finalement, on est tombé dans mes recherches, parce que là, j'étais tanné d'avoir d'autres choses à corriger. J'ai trouvé Jitsi, qui est une plateforme open source qui est basée sur le protocole WebRTC, qui fonctionne assez bien. Malheureusement, la plateforme qui est offerte par Jitsi, qui est un projet open source, fait que quand on avait pour enregistrer, ça échouait régulièrement parce qu'il manquait de bandwidth, il y avait des éléments comme ça. De là, on continue des recherches, puis on est rendu sur 8x8, qui fonctionne par ailleurs très bien, qui donne un bon résultat. On a du vidéo, on interagit. Et ça nous a même donné la possibilité de faire des lives. On a fait dernièrement, justement, dans le cas du confinement.
Qui est une feature intégrée en plus, là, qui n'est même pas de plugin à rien. Mais ce qui est cool de Jitsi puis 8x8, c'est comme tu as dit, c'est du WebRTC. Même pas de besoin de plugin, pas besoin d'installer rien. Ça marche direct dans Chrome. Ce qui est un peu plate, c'est Firefox et autres plateformes. Ça fonctionne, mais généralement, ça va offrir soit des lags ou des crashs. Mais vraiment, vraiment intéressant. Puis pour revenir un peu sur toutes les plateformes, puis un peu le lag là, qui était commenté, pas commenté, mais qui était dans les questions et ce que le monde apportait là, quand il nous écrivait. Faut comprendre que la manière qu'on fonctionne puis qu'on fonctionnait au début, c'est qu'on se met sur mute. Fait que là, quand là, présentement, Nick ne parle pas, donc il est sur mute, fait qu'il n'y a pas de données, c'est beau, sa chaise ou autre, qui rentre pour le traitement par après. Mais là, quand tu multiplies le concept qu'on est sur mute avec le fait que la plateforme compresse les données, ben là, Nick, il vient de perdre toutes ces choses. Fait que c'est pour ça que ça rendait les choses plus compliquées. Puis en même temps, ben, apprendre à utiliser une plateforme avec le mute, car c'est pas tout le monde qui est habitué à faire des podcasts, parce qu'il faut le dire, là, ça faisait déjà 2 ans qu'on avait fait, moi puis Nick, mais c'est pas tout le monde qui en faisait avant. Fait que comme c'est pour ça qu'il y a du monde qui a maintenant qui font des Steve, qui dit unmute pas. Mais en même temps, oui, il y a eu des boosts qui, tu sais, cliquer sur le piton unmute fait qu'il y a comme un délai, même s'il n'est pas technologique. Mais c'était encore pire qu'on n'avait pas la vidéo parce qu'on ne savait pas quand qui veut parler, qui veut interrompre. Même si dans le logiciel Zencastr, il y a une petite main. Là, je veux dire, personne ne check la petite main qui est genre 4 pixels de large dans l'écran. Celle-là, on l'a la petite main. Là, puis il faut que tu checkes correct là, pour l'avoir. Là.
Ben, vraiment pas le fun en plus dans celle-là, mais la vidéo vient compenser largement ce genre de choses-là. Puis ça rajoute un coup dans les interactions. Puis c'est une question d'expérience aussi, là, parce que on a commencé tous, oui, on en a fait d'autres avant, mais encore là, j'avais pas un rôle comme j'ai un rôle maintenant, qui est vraiment le rôle de l'animateur, ce qui, j'ai appris sur le tas bien des affaires, que le Damien m'a malmené à bien des égards à ce sujet-là d'ailleurs. Là. Fait que c'est cette interaction-là. Puis il y a des blancs aussi qui sont laissés volontairement, puisque justement, on m'a niaisé. Fait que j'essaie de faire des changements de sujet subtils et puis finalement, on me laissait choir.
Ouais, des fois, on fait pas exprès, évidemment.
Ah, jusqu'à un certain point. Fait que c'est ça. Ben ça fait que ça rendait compliqué tous ces silences-là. Les Steve qui encore des problèmes. Dans le dernier qu'on a enregistré le week-end dernier, il a encore oublié à quelques reprises, mais maintenant, c'est rendu un peu un running gag.
Tout le monde le sait. C'est plus facile, comme tu dis, avec la vidéo, c'est plus cool. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aussi avec les lives, le mute, on l'utilise peut-être un petit peu moins, fait que ça rend ça plus interactif, évidemment. Mais par défaut, la vidéo, quand il n'y a pas le drifting de l'ancienne plateforme Zencastr, ben, je pense que c'est plus interactif. Depuis qu'on a switché les commentaires, on switché aussi que c'est plus interactif. Fait que, oui, expérience, par être à la plateforme nous aide. Fait que c'est quand même cool. Je pense que ça s'en vient bien.
C'est un peu tout. Autant là, notre expérience augmente, autant, tu sais, autant. C'est ça qui était intéressant parce que je regarde quand même Steve qui était habitué de passer à la télévision. Mais il n'était pas dans un contexte de podcast où justement il faut muter et ce genre de choses-là. Ça demeure quand même une courbe d'apprentissage, même si on est habitué de faire du média. Donc tout ça est quand même très intéressant dans l'ensemble. Puis de toute façon, on s'amuse beaucoup à travers ça. Surtout que ceux qui ont commencé à nous dans les lives. Là, on voit vraiment à quel point on délire entre nous autres. On est vraiment une bande de joyeux lurons.
Total, oui. Puis ça, c'est sans compter les nombreuses fois où ce que Nick doit couper des certains moments parce qu'on la perd, total.
Ouais, on échappe dans certains cas, oui.
Ouais, ouais. Il faut lâcher un cut. On rit, on boit, puis on recommence.
ça fait partie de ce que c'est aussi. Là. Puis de toute façon, en soi aussi, ça a été un énorme apprentissage pour moi. Puis il y a l'apprentissage justement de faire d'animer tout ça. Ça, c'est déjà quelque chose qui est très intéressant. Puis j'apprécie énormément. Il y a tout l'autre volet technique aussi, là, lequel on a des équipements qu'on a achetés, il y a des logiciels qu'on utilise. On parlait des logiciels comme Zencastr ou 8x8, mais à travers tout ça, il y a du montage qui se fait avec des logiciels spécialisés et il y a du traitement audio également qui s'exécute. Puis celui-ci, entre autres, sert justement à corriger les gens qui ont oublié de fermer leur micro, qui servent à enlever les bruits de fond, qui servent à normaliser le son, que tout le monde a l'air d'avoir à peu près le même volume, parce que des fois, les micros ne sont pas tous nés égaux. Puis, dans certains cas, comme moi, ça m'arrive des fois, je n'ai pas le bon micro qui embarque, fait que c'est le micro de mon laptop, fait que j'ai comme un bruit de fond poche. Mais je suis capable de normaliser ça. Puis, si vous écoutez les podcasts du début, vous allez constater à quel point la différence entre comment je faisais mon montage au début puis mon traitement et ce que je fais maintenant. La différence, elle est assez spectaculaire parce que maintenant, tout le monde a à peu près le même volume. On a à peu près tout le même type d'intonation. Et je ne sais pas, c'est pas encore parfait, mais on se rapproche à peu près tout comme si on avait à peu près tout le même micro. Quand dans les faits, c'est complètement fou. On parle de certains micros hyper cheap à d'autres qui ont des micros qui sont de meilleure qualité. Donc, c'est très... la magie du montage.
Oui, tout à fait. Puis ce qui est drôle, c'est que même moi, j'en ai enregistré, je pense, au DEFCON avec des écouteurs tout croche. Après ça, j'ai acheté un micro portatif pour dans mes voyagements. J'ai celle-là que j'ai présentement qui est fixe, mais que je ne peux pas vraiment transporter. Fait que oui, il y en a eu des trucs. Puis si vous vous rendez compte, peut-être je pense que c'est milieu 2019 dans ces coins-là, Nick qui essayait de mettre des effets métallisés dans la voix, qui nous a donné des effets quand même drôles parce que, faut le dire, le matériel, c'est aussi les écouteurs, pas juste les micros.
Ah oui,
celle-là est drôle.
Ouais, ça a été. La plupart ont été corrigés depuis, là, mais il est arrivé un moment assez épique. Là, on recevait le commentaire comme quoi le podcast était très difficile à écouter et tout ça, à entendre. Puis moi, j'ai des écouteurs qui sont, mettons, semi-pro. Ce qui fait que le son était tout le temps bon. Enfin, je me demandais, moi, j'écoutais dans mes affaires, je fais mon montage. Ça sent toujours bien. Et là, j'étais comme, mais pourquoi le monde se plaint que ça va pas bien? Moi, ça va toujours bien. J'entends bien, les voix sont distantes, tout va bien. Jusqu'à temps que je me prenne, là, j'en ai maintenant des écouteurs. Bon, pas nécessairement cheap, là, mais des écouteurs qui bousillent un peu le son de ce genre de choses-là, qui s'assurent de scraper ça comme il faut.
Qui compressent ça, là.
Ouais, qui font un job bizarre. Fait que là, j'écoute avec ces écouteurs-là maintenant quand je fais mes montages pour être sûr que le son se propage bien. Puis c'est étonnant parce que quand tu connais pas le montage audio, tu fais plein de petites erreurs comme ça. Puis il y en avait aussi dans mes débuts, c'est que je m'étais rendu compte que quand les voix s'additionnaient une par-dessus l'autre, finalement, on n'entendait juste plus rien. On entendait juste un bruit informe de gens.
C'était super sourd, là. Comme une grosse canne de conserve avec un écho. Ouais, c'était bizarre, ça. Jusqu'à temps aussi que tu l'essayes dans ton char, je pense. Quand même, ton char, il est de bon speaker, mais c'était comme « Ah ouais, c'est weird!
» Ouais, ben là, c'est où là, je me suis rendu compte des problèmes en question, dans lequel tout ça a été corrigé. Là, depuis, là, j'ai appris, là, il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans qui fait que maintenant, c'est plus ce que c'était. Fait que les deux personnes peuvent parler l'un sur l'autre sans qu'on perde nécessairement le son d'un et l'autre. Fait qu'on est capable de distinguer. Mais la voix métallisée est encore un peu présente, mais elle a été beaucoup raffinée depuis.
Bon, oui. C'est écoutable.
Fait que ça va beaucoup mieux. Ça, puis ça sert aussi à neutraliser un certain nombre. Ça, c'est des trucs de neutralise un certain nombre de choses. Puis tu sais, j'ai à mon grand bonheur des gens dans mon entourage qui sont très bons en audio. Fait que je me fais donner des petits conseils une fois de temps en temps pour un peu rehausser mon jeu puis amener ça à un niveau haut. Tu sais, tant qu'à parler, on parlait un peu tantôt des anciens podcasts qu'on faisait qui ont arrêté. On a une des éléments de signature que j'ai conservé de la première génération de podcast, c'est la musique de fin.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans le fond, quand on a commencé à faire ça, la première chose que j'ai faite sur l'ancien podcast, c'était de trouver un jingle de début puis de fin. Mais que le début est ce que vous entendez présentement, là, juste un genre de repeat qui dure quoi, 30 secondes. Mais la fin était une toune complète qu'on laissait aller, puis c'est un peu de là que ça vient. La seule différence, c'est que là, vu qu'on voulait un brand, le début reste pareil. Dans l'ancien podcast, je crois qu'il change très régulièrement.
Ce que je faisais dans l'ancien, c'est que je prenais le début de la toune en intro, puis je terminais la toune en intro. Fait que c'est comme ça que c'était exécuté. Là, l'intro est toujours le même, justement pour l'indicatif soit reconnaissable. Mais en out, c'est toujours une musique différente. Toujours, toujours.
Yep. Fait que c'est ça, même en roulant les événements du Hackfest, notre intérêt entre les conférences le matin et le midi, etc., c'était de faire rouler de la musique différente et intéressante. Donc, on a trouvé des tonnes d'endroits avec de la musique gratuite qu'on peut réutiliser. Puis c'est de là que ça venait officiellement, là, le concept. On pourra le mettre dans les show notes. Là, je vais prendre une note là-dessus sur Ectoplace et autres qui sont des awesome listes de musique. Là.
Ouais, ben de toute façon, dans les show notes, puis ça aussi, c'est un autre aspect que je trouve que les gens ne consultent pas assez. Les plateformes qu'on utilise sont toujours mentionnées. Les lieux où on enregistre sont toujours mentionnés aussi, parce qu'on fait des épisodes. Je l'ai fait principalement avec Damien, mais je l'ai fait d'autres aussi, entre autres avec Patrick. On est dans des restaurants, on est dans des lieux spécifiques. Ces lieux-là sont mentionnés, donc je fais toujours très, très clair. Et Ectoplace puis OC Remix aussi sont mentionnés dans les show notes. Donc, on met toujours les crédits musicaux qui vont avec. Donc, vous pourrez trouver dans les show notes ces informations-là.
Yes. Fait que ça, je pense que ça fait pas mal le tour, mais j'inviterai aussi tout le monde à poser des questions. Twitter, Facebook, courriel, gênez-vous pas, tout est listé sur notre page web Sécurité FM. Toujours intéressant d'avoir ça. Puis ce qui est cool aussi dans les lives, ben c'est qu'il y a beaucoup de monde qui interagisse avec les questions. Puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on va essayer d'en faire de plus en plus, surtout considérant notre super confinement obligatoire. Donc, avec les lives qui rejoignent un peu la communauté pour avoir un petit quelque chose une fois par semaine ou deux fois par mois, qui vient rajouter par-dessus les rencontres sociales là, du Hackfest. Je pense que ça fait un beau mix là, de sujets, d'interaction avec la communauté.
Oui, ben ça, les lives, c'est des choses qu'on a découvert à cause du confinement. Donc, moi, je trouve ça particulièrement le fun parce qu'on est capable d'aborder, avoir beaucoup d'interactions. Puis, pour une raison que je ne comprends pas encore, je me disais qu'à l'expérience, on va le voir, on est beaucoup plus relax dans un live que quand on fait nos enregistrements. Puis, on est vraiment plus drôle au point où, dans le dernier live qu'on a fait, Vincent, c'était un peu emporté, disons. Et ce qui était tout à fait particulier, pas particulier, mais très drôle dans le contexte, parce que tu sais, toujours naturel, très calme. Donc, ce cas-là, ça a été fort amusant de constater ça. Puis bon, plus la technologie, l'expérience avance, mais la qualité augmente. Une petite note probablement que je vais remasteriser de plus vieux épisodes pour rehausser un peu la qualité du son à un niveau peut-être plus adéquat. Là.
Yes, exact. Puis quand tu parles de Vincent, bien évidemment, autant lui que les autres qui arrivent dans les épisodes plus sérieux, c'est que le mute a beaucoup plus d'importance que dans un live, parce que dans le live, ben on y voit la face. Ouais, il ne peut pas vraiment passer à côté.
Ouais, puis c'est partagé avec tout le monde. Fait qu'on a de l'interaction des gens sur le channel qui voient ça puis qui participent. Fait que c'est des modèles qui sont le fun. On a testé beaucoup de choses avec ça. Puis d'ailleurs, en parlant de logiciel de montage que j'utilisais, c'était drôle avec un de nos anciens podcasteurs. Le logiciel, j'utilisais un peu trop costaud. Et il était spécialisé pour filtrer le son de la voix d'une façon avec un peu de AI dedans. Ce qui fait que j'entendais ses enfants. Quand je filtrais trop fort, j'entendais ses enfants dans la piste à côté. Fait que ce que ça faisait fait que je, au lieu de me sauver du temps dans le montage, parce que c'est juste d'avoir le son que je voulais, je m'en multipliais parce que je devais filtrer les discussions de ses enfants en plus dans le podcast. C'est juste l'asile.
Tout ça pour se débarrasser du bruit de ma chaise et finalement, ça ramassait les kits de tout le monde.
Ouais, ben c'est ça. Entre autres, il y a eu une panoplie de problèmes de montage. Mais tu sais, avec les années, là, je rendais des logiciels super sophistiqués. Puis ça fait une bonne job, ce genre de choses. Il y a certains petits éléments. Puis genre, moi, perso, j'en profite aussi pour explorer tout le montage audio. Puis toutes les particularités sont associées à ce genre de choses-là. Donc, c'est toujours un défi renouvelé et toujours très. J'adore ça, ce que je fais là.
Yes. Ben là-dessus, Monique, je te dirais un autre 4 ans. Un cheers à ça.
J'espère un autre 4 ans. Si ma voix sera jusque-là, ouais, j'ai ouais. préparé pour avoir un peu de misère aujourd'hui. Peut-être à manquer d'hydratation. Mais non, c'est ça. Yep. C'est encore beaucoup d'années. J'ai, de point de vue, tout le background, ce que les gens ne voient pas, toute la technique. Ça me permet d'explorer des choses très intéressantes. Puis, oui, un autre 4 ans.
Exact. Parce qu'il faut le dire, le côté le fun aussi en terminant, c'est les on parle des interactions qu'on enregistre avec les live et autres, mais c'est aussi le reach du podcast qui, autant le reach du Hackfest, ça a toujours été une discussion, moi, Nick et autres, qu'on a toujours eu. Dans le sens que on n'est pas capable de voir la réalité du reach. Pas juste de le voir, mais de le comprendre. T'sais, même si on a des stats qui montrent le nombre de personnes approximatifs, d'avoir des devs qui n'ont aucun rapport en sécurité, qui viennent des fois même d'une autre province, puis qui nous parlent ou qui nous croisent d'un événement, et me disent « Hey, je connais ton podcast, puis je te suis », ou tu sais, je vais aux États-Unis dans des conférences dans le milieu des États, puis j'ai un t-shirt du Hackfest, puis le monde sont comme « Ah, ça c'est cool, j'aimerais ça y aller un jour », je suis comme « Qu'est-ce que c'est ça, tu sais, pourquoi? » Comment ça se fait que le reach va aussi loin que ça, avec des personnes aussi diversifiées? C'est vraiment cool de voir ça puis d'être capable de diffuser la bonne nouvelle, la sécurité et l'insécurité aussi loin.
Aussi, puis avec le temps aussi, on a pris un style un peu plus grand public en général aussi. Ben, grand public, on n'aborde pas les sujets techniques, mais on est plus dans l'opinion puis dans le regard sur les choses qui rend un peu le sujet peut-être un peu plus abordable pour la plupart des gens, mais tout en conservant quand même une bonne quantité.
Oui, exact. C'est pas juste des nouvelles, c'est un peu plus. C'est sûr que c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde qui n'ont aucun rapport en TI. On est TI orienté, mais c'est comme tu dis, ça rejoint plus parce qu'on a de l'opinion puis on dit ce qu'il faut dire. Et il faut le dire, la majorité ne le disent pas. Fait que c'est sûr que ça donne un petit punch.
Un petit quelque chose de plus. Fait que donc, un autre 4 ans. De toute façon, prochain live va être incessamment. Fait que cet épisode-là va sortir après le prochain live, mais il n'empêche pas qu'on commence à condenser à peu près 2 à 3 lives par mois, ce qui est un changement quand même assez significatif par rapport à notre formule. Donc, on s'en vient, comme tu disais, quasiment maintenant un épisode par semaine qu'on enregistre. Mm-hmm. Puis, comme le temps de montage est de moins en moins long, mais même mon temps est de moins en moins disponible, surtout ce temps-ci, les épisodes, là, j'essaie de faire un peu plus de choses. Puis ça, c'est épique parce que je peux passer un mois sans diffuser. Du coup, je sors 6 épisodes d'un coup parce que, pas parce que les épisodes ne sortent pas qu'on n'enregistre pas. Mais bref, c'est moi qui ai un peu le goulot d'étranglement sur la production.
Ouais, disons que c'est un moment de l'histoire un peu spéciale, c'est pardonné.
Non, c'est ça. Donc, sur ça, je vous souhaite à la prochaine.
Yes. Et lâchez pas, écrivez-nous et on se revoit bientôt.